7h26, on va parler de la DPJ. On sait que la commission Laurent poursuit ses travaux. Et hier, on a appris, en fait, quand je dis appris, on a vu ça dans un certain nombre de dossiers, trop, que même quand la DPJ prenait en charge un enfant, qu'un juge ordonnait que des mesures soient prises pour assurer le développement de l'enfant, sa sécurité, malheureusement, dans trop de cas, le plan d'action n'était pas suivi, n'était pas respecté. Et là, il y a toutes sortes de raisons, raisons classiques comme le manque de ressources. J'en parle avec Maître Catherine Brousseau, qui est présidente du Comité consultatif en droit de la jeunesse du Barreau du Québec. Maître Brousseau, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
Donnez-moi un exemple type de ce que vous avez défini hier, là, comme étant donc le cas d'un enfant qu'on a identifié, qui a besoin d'être encadré, les parents, la même chose, le juge leur donne et ça ne fonctionne pas. Ça arrive souvent. C'est quoi le processus normal quand ça se produit, ces événements-là?
En fait, je vous dirais, c'est qu'on le voit de plus en plus dans les dernières années, entre autres, effectivement, comme vous l'avez mentionné, à cause du manque de ressources. Mais je vous dirais, les cas les plus typiques que nous allons voir, c'est, par exemple, un juge qui va ordonner que l'enfant puisse avoir un suivi psychologique. Et lorsque nous allons nous représenter au tribunal, 6 mois, 1 an plus tard, nous allons apprendre que l'enfant, finalement, n'a pas eu ce suivi parce qu'il est encore sur la liste d'attente ou parce que, finalement, ça a pris tellement de temps avant que le service puisse être offert que l'enfant peut avoir, finalement, changé d'idée puis ne plus vouloir le service. Un autre exemple que je peux vous donner qui est assez typique, c'est le fait que, lorsque le juge rend sa décision, il va ordonner que quelqu'un, qu'un intervenant au suivi de la DPJ fasse le suivi du dossier. Et comme il y a un manque criant d'intervenants, il arrive parfois que ça peut prendre 2, 3, 4 mois avant qu'un intervenant prenne la suite du dossier pour exécuter les mesures que le juge a ordonnées. Et là, vous comprenez que ça amène un vide de service et des gens qui se retrouvent finalement sans service.
Mais comment
et
se fait-il?
Des enfants aussi.
Oui. Comment se fait-il que le signal d'alarme ne sonne pas plus vite?
Vous voulez dire que les services ne sont pas rendus?
Oui. Dans le sens que vous dites on s'en aperçoit 6 mois ou 1 an après quand on revient devant le juge. Comment ça se fait que si le service n'est pas rendu comme le juge l'a ordonné, qu'il n'y a pas un mécanisme qui fait en sorte que là, il y a une décision de la Cour, il y a une ordonnance qui a été émise, elle n'est pas appliquée. Il n'y aurait pas lieu qu'on le sache plus rapidement?
Bien, c'est ce qu'on dit, en fait, dans notre mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit des obligations pour plusieurs parties. La loi prévoit que le juge, lui, a le pouvoir d'entendre la cause et d'ordonner certaines choses. Et c'est la DPJ qui est responsable de l'exécution des mesures. Et le juge n'a pas le pouvoir d'effectuer lui-même, je vais dire ça comme ça, le suivi de sa décision. Nous, ce que nous disons, le barreau, c'est qu'à partir du moment où le DPJ se rend compte qu'il n'est pas en mesure d'exécuter l'ordonnance telle que le juge l'a prononcée, il devrait à ce moment-là en aviser les parties, donc les avocats des parties qui étaient présentes, pour qu'à tout le moins, nous puissions nous-mêmes ressaisir la cour et dire « Voyez, monsieur le juge, ce qui n'est pas respecté » et à ce moment-là, peut-être ordonner d'autres mesures ou peut-être même forcer l'exécution des mesures là, qui avaient été ordonnées à la base.
Là, j'entends des auditeurs dire « Oui, mais souvent, l'enfant va être représenté par un avocat devant la cour. Est-ce que l'avocat vérifie une fois que l'ordonnance a été émise si elle est exécutée ou pas? »
Bien, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait, l'avocat de l'enfant, son mandat commence lorsque, dans l'état actuel du droit, le mandat de l'avocat de l'enfant commence lorsque une procédure est déposée à la cour et son mandat se termine lorsque le juge rend son jugement.
OK.
Donc, on n'a pas le pouvoir.
Il n'y a pas de suivi, là.
Non. Moi, le seul moyen que j'ai d'avoir un suivi comme avocat de l'enfant, tout simplement, c'est que l'enfant m'appelle et me dirait « Écoute, moi, on m'a ordonné un suivi psychologique, j'en ai pas, j'en veux un, ça va pas bien. » Là, à ce moment-là, je peux saisir la cour et dire « Écoutez, il y a un problème. » Le problème que j'ai, c'est que vous comprenez qu'il y a des enfants, parfois, qui sont en plus bas âge et qui ne sont pas en mesure là d'appeler son avocat pour lui dire que ça fonctionne pas. Là.
Dans les mesures qui sont ordonnées par un juge, là, on parle des enfants, mais on peut parler aussi des parents, parce que j'ai déjà vu dans passé, là, des cas où on disait, OK, on vous laisse l'enfant, mais vous allez devoir, par exemple, rencontrer des spécialistes, vous présenter à la DPJ une fois par semaine, une série de mesures. Est-ce que c'est la même réalité parents-enfants, c'est-à-dire l'absence de suivi?
Oui, parce que je vous donne l'exemple, quand je vous ai donné l'exemple tantôt de qu'il n'y a pas, par exemple, d'intervenant à l'application des mesures, ça vaut, évidemment, l'intervenant intervient pour l'enfant, mais intervient aussi pour les parents. Alors, par exemple, si on a demandé aux parents de faire un suivi et que l'intervenant n'est pas au dossier, ben, et qu'il ne fait pas la vérification que le parent fait vraiment ce qu'il s'est engagé à faire, ben, on se ramasse encore 2, 3, 4 mois plus tard et il n'y a rien de fait, là.
Mais là, ça veut dire que si on prend des mesures comme ça qui visent des parents, c'est pour assurer la sécurité physique, le développement de l'enfant. Si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'on a beau avoir fait un signalement, avoir obtenu un jugement, l'enfant demeure donc dans une situation, j'allais dire, dangereuse.
Parfois précaire.
Précaire.
Précaire, je pense que c'est le bon mot. Oui. Ça peut arriver effectivement que des fois des enfants se retrouvent en situation précaire. Et je le dis autant pour les enfants qui sont placés chez leurs parents, mais c'est la même chose. Le juge peut ordonner certaines mesures lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil. Par exemple, si un enfant a un trouble de l'attachement et qu'il a besoin de services particuliers, parce qu'on n'intervient pas avec un enfant qui a un trouble de l'attachement de la même façon qu'on interviendrait avec un autre enfant, et que le service n'est pas donné, mais on se ramasse encore une fois avec un enfant fragilisé dans un milieu qui devient lui aussi plus fragile parce qu'il doit composer avec une réalité qui n'est pas toujours évidente et qui peut amener à ce moment-là un déplacement d'enfant, par exemple.
Est-ce que les enfants ou les ados là, qui sont dans les centres ont un accès plus facile à des services?
Je vous dirais, sur le terrain, effectivement, parfois, oui. Ils ont accès un petit peu plus facilement, mais c'est pas non plus, il y a aussi des listes d'attente, là. Mais ça arrive effectivement que des adolescents placés en centre de réadaptation ont un accès un petit peu plus rapide à un psychologue qui est déjà sur place.
Mais c'est préoccupant ce que vous dites. Ce que vous soulevez là, c'est de dire, on a fait un... D'abord, ça part d'un signalement, on a fait une enquête, on en vient à la conclusion qu'il faut que l'enfant... fasse l'objet
des
services, que les parents, dans certains cas, soient encadrés. Le juge constate ça, l'ordonne, et ça se fait pas.
Effectivement, et c'est pour ça que le barreau souhaite qu'il y ait une plus grande imputabilité dans le réseau. Donc, la DPJ soit forcée, par exemple, de faire, comme on disait, un rapport d'exécution des mesures. Qu'est-ce qu'on a exécuté comme mesure? Qu'est-ce qu'on n'est pas en mesure d'exécuter et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se fasse?
Exact.
C'est ça.
J'allais dire, ce ne sont pas des caprices, là.
Non, pas du tout. Ce qui est un peu la réalité et qui est un peu particulier, c'est que c'est souvent le directeur lui-même qui a demandé cette mesure-là. Par exemple, qu'un enfant ait un suivi psychologique. Alors, s'il le demande, c'est parce qu'il considère que c'est nécessaire. Et si c'est nécessaire, ben il faut que le service suive.
Merci beaucoup, Maître Brousseau.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Bonne journée, Maître Catherine Brousseau, qui est la présidente du Comité consultatif en droit de la jeunesse du Barreau du Québec.